Merci Serge, avec toute l'équipe aussi. C'est une belle prière, certainement pour disposer nos cœurs hein, à écouter la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Je vais prendre le temps de remercier aussi Serge pendant et puis Ghislain pendant mes vacances où vous avez pris la relève, nous apporter la parole et puis ça a été bien apprécié. Et puis je veux vous dire merci. Ce matin, on arrive à la fin de ce qu'on a commencé pratiquement v'là un an, l'épître de Jacques. On arrive à la fin de Jacques au chapitre 5, et puis il nous reste deux versets. C'est pas les deux versets les plus faciles de l'épître de Jacques, ni même des Écritures, mais on va pas passer par-dessus non plus. Jacques, si vous l'aviez déjà lu, ou si vous avez remarqué à travers les diverses prédications au courant de l'année, c'est un épître qui est simple et compliqué en même temps. Quand on regarde ce que Dieu nous dit à travers la plume de Jacques, c'est très direct, c'est très pratique, c'est très très compréhensible, puis en même temps, en certaines occasions, on pourrait même dire controversé. Il me semble que des fois, Jacques, il pousse des choses que on a tout juste l'impression, s'il n'y a pas d'autres textes, des fois dans les Écritures, qui semblent dire le contraire. Hein? On s'était arrêté dans Jacques 2 en ce qui concerne la foi et les œuvres. Et puis Jacques, il dit que la foi sans les œuvres est morte. Mais est-ce qu'on est d'accord avec ça? Mais absolument. Si la foi est sans œuvres, elle est morte. Alors, c'est pas contradictoire. Il n'y a pas de contradiction avec le reste des Écritures. Mais il faut prendre le temps de bien observer ce que Jacques veut nous dire. Et il y a un enseignement, je dirais presque calqué sur le sermon sur la montagne. Plusieurs thèmes du sermon sur la montagne sont rapportés à travers l'épître de Jacques. Jacques, au travers de son épître, on peut voir qu'il y a un fil conducteur qui est le comportement du croyant. Comment est-ce que vous et moi, qui disons qu'on est sauvés, qu'on est des enfants de Dieu, comment est-ce qu'on se comporte? Comment est-ce qu'on vit le reste de la semaine? Est-ce que le dimanche matin, on entend un message, mais est-ce que le reste de la semaine, on pratique un message ou on pratique la foi qu'on dit professer? C'est un peu ce que Jacques est en train de confronter, ce que Dieu nous confronte à travers l'épître de Jacques. Le comportement du croyant. À travers l'épître de Jacques, on a vu différents thèmes. On a vu, par exemple, j'ai ramené souvent cette expression-là, la foi authentique. Si je dis que j'ai la foi, puis que je crois en Dieu, comme je viens de dire, comment je le vis au courant de la semaine, dans les épreuves? Hein, il commençait avec ça. Voyez, mes frères et sœurs, là, les diverses épreuves auxquelles vous êtes soumis comme un sujet de joie complète. Il était sérieux là, quand il a dit ça. Là. Mais quand on vit les épreuves, comment est-ce qu'on les vit dans notre foi? Ou bien dans la prière? Alors, Jacques il va rapporter le sujet de la prière à différentes occasions. À travers l'utilisation de la langue, de notre langage. Comment est-ce qu'un croyant va utiliser sa langue au courant de la semaine pour dire du bien, pour bénir, pour ne pas mépriser? Dans nos relations aussi, sans distinction. Vous vous souvenez, Jacques, il dit à un moment donné, il dit, comment est-ce que vous agissez? Si quelqu'un rentre dans l'église et puis qui est bien habillé, il a des belles bagues aux doigts, il a de l'air riche, et puis là, on dit, « Hey, toi, viens t'asseoir ici, sur le premier banc en avant. » Ça tombe bien, jamais personne qui s'assoit en avant, là. Mais dans le temps, on imagine que c'était l'inverse. Hein? On pouvait rechercher les premières places, et là, on disait, « Hey, j'ai une place d'honneur pour toi, viens t'asseoir ici. » Mais Jacques est en train de dire, vous vous trompez, là, vous faites de la distinction, là, vous faites de la distinction entre les gens, puis Dieu aime autant celui qui est pauvre que celui qui est riche. Il n'y a pas de distinction. Alors, dans nos relations, dans la recherche de la sagesse aussi, que Jacques va nous enseigner. Jacques, il termine avec pas trop de façon, hein? Tu sais, Paul, quand il termine, que la grâce, la paix vous soit donnée, je vous salue, salue un tel, salue un tel. Mais Jacques, vous allez voir à travers les deux versets, paf! Ferme la porte. Et puis, une dernière exhortation très claire, encore une fois pour nous, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que Dieu a à nous dire à travers ça. Je veux juste rappeler quelques mots que j'ai utilisés aussi à travers l'épître de Jacques en ce qui concerne la foi. Il y a une cohérence qu'on doit accepter qu'on doit vivre entre croire, la foi, puis la fidélité. Le mot grec, vous allez comprendre, c'est toujours la même racine. Si on parle de foi, en grec, on dit pistis. C'est la foi. Si on dit croire, on dit pisteo. C'est le verbe. Vous comprenez? C'est encore la même racine. Alors, la foi et croire, c'est la même chose. C'est que je crois quelque chose, je place ma foi ou ma confiance, hein? Alors, la foi pistis, pisteo qui est croire, et puis la fidélité qui est pistos pour le fidèle. C'est toujours la même chose. Si je crois, mais je dis que j'ai confiance en Dieu. Puis si je dis que je crois, mais je suis fidèle. Je vis ce que je crois. En quelques mots, c'est ça que Jacques essaie de nous dire tout au long de son épître. Ce que tu dis que tu crois, tu le vis-tu fidèlement jour après jour. C'est ça la fidélité. Les deux derniers versets qu'on va voir ce matin, on va voir ce dernier avertissement-là que Jacques nous rappelle, qu'il est toujours possible de revenir à Dieu. Il est toujours possible de revenir à Dieu parce que Dieu veut qu'on soit fidèle. C'est cohérent avec la foi, avec ce que l'on croit, puis que Dieu veut qu'on soit des fidèles. Dieu veut qu'on soit non seulement un titre de dire « je suis un fidèle », mais qu'on ait la pratique d'un fidèle aussi. Dieu veut que tu sois fidèle, et si présentement t'as emprunté un détour, ou si tu vois quelqu'un qui prend un détour, mais reviens. Ou va chercher cette personne-là pour la faire revenir aussi. Je vous invite à tourner avec moi dans Jacques. Vous y êtes peut-être déjà. On va lire les deux derniers versets. Jacques 5, on va lire les versets 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un, on peut inclure les sœurs là-dedans, OK? Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voici la conclusion de l'épître de Jacques. Si je me suis égaré, si j'ai pris un chemin, plus particulièrement ce que Jacques dit, si tu vois quelqu'un qui est en train de s'égarer ou qui a pris un autre chemin, va le chercher. Dieu veut que tu sois fidèle. J'aimerais qu'on prenne un temps pour prier, que Dieu vienne toucher nos cœurs, que Dieu vienne parler à nos vies ce matin pour qu'on puisse accepter ce qu'il a à nous dire. Seigneur, on vient devant toi pour te louer parce qu'on croit que tu es un Dieu vivant. On croit, Seigneur, que tu n'es pas artificiel, on croit que tu n'es pas distant, mais tu es présent auprès de nous. Tu disais juste avant de remonter au ciel, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Dieu, on croit que tu es avec nous. On croit que tu nous accompagnes. On croit que ta parole est vivante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Et Dieu, on te prie que ce matin, à travers ta parole, tu viennes faire la part des choses dans nos vies, dans nos têtes. Et que tu viennes nous encourager à travers ta parole, à travers ces deux derniers versets de l'épître de Jacques. C'est dans le nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen. Dieu veut que tu sois fidèle. Puis, les trois bonnes raisons, je pourrais dire, on va voir trois bonnes raisons ce matin qui vaut la peine que de revenir si je me suis égaré. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse pour la refermer bientôt. Jacques, il dit, si quelqu'un voit son frère qui s'est égaré loin de la vérité, le premier sens que Jacques est en train de dire, c'est l'implication que l'on a en tant que frère et sœur dans la vie de mon frère ou de ma sœur qui est en train de s'égarer, en train de prendre un chemin qui s'éloigne. Mais j'aimerais l'aborder sur deux aspects, ce texte-là, ce matin, c'est-à-dire d'un point de vue où peut-être que c'est moi qui est en train de prendre un détour présentement. Et de sonder notre propre cœur à savoir, est-ce que c'est moi qui me suis éloigné de la vérité? Avant qu'on voit ça d'un point de vue de dire, lequel de mes frères ou de mes sœurs qui peut être près de moi ou pas nécessairement ici, que je dois porter mon attention. Portons l'attention sur nos propres cœurs, mais aussi sur la responsabilité que Dieu nous donne pour nos frères et sœurs. Dieu veut que tu sois fidèle, et s'il y a une bonne raison pour revenir à Dieu, c'est à cause de la réalité du péché. À cause de la réalité du péché. La réalité du péché, elle a une double facette. Le péché peut être agréable. Le péché peut donner un plaisir pendant un temps. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, Caïn a tué son frère? Parce qu'il voulait éliminer la concurrence. Hein? Il a tué son frère parce qu'il a un motif personnel. Et lui, dans sa tête, c'était une bonne chose que d'éliminer la concurrence. Pourquoi est-ce que Judas a trahi Jésus? Ben, il voulait peut-être avoir plus d'argent dans ses poches. Pendant un temps, il s'est dit, c'est un motif louable que de dire, je vais trahir Jésus pour avoir 30 pièces d'argent. Pourquoi est-ce que Jonas s'est enfui de Dieu quand Dieu lui a dit, va-t'en à Ninive? Et il voulait que les Ninivites, ils meurent. Il voulait qu'ils soient châtiés par Dieu. Pourquoi la femme de Lot, quand ils ont quitté le lieu où ils étaient, elle s'est retournée pour regarder en arrière? Il y avait des choses qu'elle était encore attachée, que Dieu ne voulait plus qu'elle pratique ou qu'elle retourne. Le péché peut être accessible. Le péché peut être facile. Le péché peut sembler nous faire obtenir des choses. C'est la raison pour laquelle on tombe souvent dans le péché. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que le péché est bon, qu'on doit le pratiquer. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'à nos yeux humains, de notre cœur pécheur d'humain, on voit souvent le péché comme une alternative qu'on pourrait prendre parce qu'il va nous procurer différentes choses qui nous sont agréables. Mais le péché a une autre réalité qui est beaucoup plus réelle, qui est l'envers de la médaille. C'est que le péché, il est mortel. Le péché crée beaucoup d'amertume. Le péché fait mal. Le péché, il fait très mal. Au début, quand on l'a consommé, le péché, ça nous semble sucré et bon dans la bouche. Mais rapidement, il se tourne en amertume, en quelque chose de mortel. Le péché, il nous rend malade. Le péché nous donne un mal de vivre. Le péché nous fait perdre bien des choses. Il nous fait perdre nos proches. Il nous fait perdre notre liberté. Il nous fait perdre la confiance. Puis par-dessus tout, il nous fait perdre notre relation avec notre Sauveur, avec notre Seigneur, avec notre Créateur. Ça, c'est la réalité du péché. Est-ce que ça devrait être une réalité qui devrait suffisamment me convaincre pour dire le chemin que j'ai emprunté, loin de la vérité, comme Jacques disait, mes frères, au début du verset, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, est-ce que si je me suis égaré loin de la vérité, la réalité du péché est une raison ou une motivation suffisante pour revenir? Absolument. Parce que si pendant un temps, je me suis laissé berner, puis j'ai décidé de me détourner du chemin de la vérité parce que je pensais obtenir mieux, je pensais obtenir plus rapidement, je pensais obtenir quelque chose de bon, mais je réalise rapidement l'envers de la médaille qui me crée beaucoup de tristesse, d'amertume, un mal de vivre, beaucoup de pertes, puis ma relation avec Dieu. C'est les motivations, à mon avis, qui ont amené Jacques à avoir cette conclusion-là dans son épître. À dire, votre fidélité, ma fidélité dans ma marche avec Dieu devrait se continuer jour après jour. Est-ce que j'aime marcher dans la vérité? Est-ce que j'aime, puis là je reviens à ce que Jacques disait, si je vois mon frère, est-ce que j'aime suffisamment mon frère ou ma sœur qui est en train de se mettre les pieds dans un plat pour aller à sa rencontre puis dire, reviens? Est-ce que j'aime suffisamment la vérité? Est-ce que j'aime suffisamment mon frère et ma sœur pour aller le chercher puis le ramener? Le péché, il est trompeur puis il en a dérouté plus d'un. Mais une deuxième raison pour laquelle Dieu veut qu'on soit fidèle puis qu'il veut qu'on revienne, c'est parce qu'il veut marcher avec moi. Il veut marcher avec toi dans ce chemin-là. Si Dieu est la vérité, si Jésus est la vérité, puis il veut que je marche dans ce chemin-là, il veut que je marche avec lui, il est toujours possible de reprendre ce chemin-là. À un moment donné, quand on décide de se détourner, c'est parce qu'on a commencé à faire un compromis peut-être avec la vérité, puis on a commencé peut-être à croire du mensonge. Je me souviens pas, j'essaie de me souvenir si je vous avais déjà conté cet exemple-là, cette anecdote-là, vous me le direz plus tard. À un moment donné, on s'en allait en Louisiane. avec les jeunes. On était en voyage missionnaire, puis on avait roulé plusieurs heures. Ceux qui sont avec moi, là, vous allez vous en souvenir. Et là, on arrive sur le point de rentrer en Louisiane. On s'en allait aider des gens là-bas à New Orleans pour les aider à rebâtir, nettoyer des maisons suite à Katrina, là. Et puis là, on suit le GPS. On indique une adresse, tu sais. Puis là, on arrive tard le soir. Il est peut-être 10h30, c'est avancé, il fait noir, 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 puis là, on arrive en Louisiane. Mais c'est pas un lieu qu'on connaît, là, c'est pas un air des airs familiers. Puis là, on tape l'adresse pour une église, puis il me semble qu'il nous emmène pas au bon endroit. Ou bien, il nous emmène pas à l'endroit qu'on souhaiterait vraiment. Parce que là, on arrive, il commence à nous conduire dans un petit chemin qui ressemble beaucoup plus à une ruelle. Et puis, comme je dis, il fait noir, il n'y a pas de lumière. Et on n'est pas sûr que de vouloir aller emprunter des choses aux gens qui sont à l'extérieur. Et il semble y avoir un contexte qui nous est pas très intéressant. Et là, le GPS, il nous dit, ben continue sur cette route-là. Et là, cul-de-sac, la ruelle est finie là. Et là, le GPS qui dit, et là, il y a comme un silence dans la vanne, le GPS dit, dès que possible, faites demi-tour. Et là, il y a comme eu un espèce de soulagement, puis de rire en même temps. C'est comme, oui, on absolument d'accord. Dès que possible, on fait demi-tour. Et là, il l'a répété quelques reprises, puis on s'est dit, c'est un bon enseignement. On repart de là, puis on va se trouver un autre endroit pour aller dormir. Dieu, il fait la même chose avec nous. Il est toujours possible de reprendre le chemin duquel on s'est égaré. Et quand on a commencé à croire du mensonge, puis qu'on s'est égaré, et puis à un moment donné, on est rendu loin du chemin de la vérité, on croit aussi ce mensonge que je peux pas réintégrer le chemin que j'ai quitté. Je peux pas revenir si facilement. Il va falloir que je fasse bien des choses pour plaire à Dieu, pour revenir. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, on commence à croire toutes sortes de choses pour dire, je peux pas revenir. Dieu, il te dit ce matin, dès que possible, fais demi-tour. T'es pas à l'endroit où tu dois être. Il est toujours possible de revenir à la fidélité. Dieu veut que tu sois fidèle. Il est toujours possible de revenir à la fidélité, de revenir à ce chemin-là. Et ça, si j'ai un frère ou une sœur qui s'est égaré loin de la vérité, c'est un message que je peux dire aussi. C'est toujours possible pour toi de revenir. Reviens. Quand que j'étais plus jeune, j'avais peut-être 10-11 ans, mon frère, j'avais un grand frère 10 ans plus vieux que moi. Et puis, il travaillait dans une marina. Et puis, je trouvais que ça avait donc de l'air le fun que de pouvoir... Le lac, il était immense, il était gigantesque. Je ne sais pas si j'y retournais, s'il y aurait rapetissé. Là, des fois, les proportions, ils changent là, en grandissant. Mais dans mon cœur, j'avais un désir que de pouvoir aller en bateau tout seul sur le lac. Je me disais, il me semble, eux, ils ont la liberté, ils peuvent aller tout seuls sur le lac, ils vont à la vitesse qu'ils veulent. Et puis, j'ai achalé mon frère pour y aller, puis il ne voulait pas. Puis, à un moment donné, j'ai réussi à m'arranger pour y aller, mais tout seul sur le lac. Et là, je pars avec le bateau, puis je me rends aussi loin que je trouvais que ça avait l'air le fun d'être. Puis, quand j'étais rendu là, devinez, c'était quoi mon sentiment? C'était plus le fun. Je commençais à paniquer un petit peu, là. Il n'est pas arrivé de malheur, je me suis pas noyé, je suis pas revenu à la nage non plus. Mais j'ai réalisé que quand j'étais sur le bord, puis je me disais, ça a donc bien de l'air le fun là-bas. Puis que quand je m'y suis rendu, mon sentiment que j'avais, c'était la perdition. Je suis perdu! Stéphane, viens m'aider! J'appelais mon grand frère. Mais j'avais peur d'être rendu là. Avec le péché, c'est la même chose. Des fois, on regarde ça, puis on se dit, « Il me semble si, hey, regarde là-bas, ça a l'air le fun. Ça a l'air vert là-bas. » Puis quand on est rendu là, on réalise que ce sentiment de perdition est beaucoup plus fort que ce sentiment de liberté. Le péché semble nous donner une illusion de liberté, mais la réalité du péché, c'est la perdition. Puis Dieu veut que je sois fidèle, puis il est toujours possible de revenir. Laissez-moi vous donner... Rappelez un exemple, je dirais presque classique, mais je pense que si Dieu l'a mis dans les Écritures, c'est pour nous encourager. Tournez avec moi dans 2 Samuel 11. Est-ce que c'est possible de revenir dans le chemin de la vérité, dans la fidélité, si j'ai abandonné Dieu? Est-ce que j'ai abandonné Dieu trop loin pour réellement pouvoir revenir? La réponse, c'est non. Puis l'exemple de David, que je disais quand, tantôt, qui est un exemple classique, que je pourrais dire, nous rappelle que il est toujours possible de revenir à la fidélité. Et l'exemple de David va nous servir de prévention. Que si présentement je suis dans le chemin de la vérité, à travers l'exemple de David, on peut se poser des questions, savoir comment est-ce que David il s'est dérouté comme ça? Comment est-ce que David a pris le champ de même? Puis prendre un exemple sur sa vie, puis dire, je vais essayer d'éviter les mauvais coups qu'il a fait. Hein, on peut apprendre des erreurs des autres. Et à travers l'exemple de David, si je suis dans une position où je suis dérouté, où j'ai pris le champ, bien, je peux regarder cet exemple-là puis dire, c'est possible pour moi d'être restauré. C'est possible pour moi de revenir à la vérité. Regardez les 5 premiers versets. 2 Samuel 11, on va lire les 5 premiers versets. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. C'était une période de guerre. David était le roi et là, ça dit que c'était une période où les rois se mettaient en marche et qu'ils allaient se battre. Dans le contexte, sans faire étirer ça de long en large, c'est une période où David, l'armée de David est victorieuse. Partout où elle va, elle gagne. Joab est un excellent commandant militaire. L'armée d'Israël, ils sont comme un seul homme et puis ils sont bien dirigés. Et là, ils gagnent chacune des batailles. Mais il y a une bataille qui s'en vient que David s'apprête à perdre puis qu'il n'a même pas vu venir. Regardez la phrase suivante au verset 1. « Mais David resta à Jérusalem. » Un soir, David se leva de sa couche. Il s'est levé de son lit. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, « Ben, c'est Bathsheba, la fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien. » Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Et après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » David est d'une période où il gagne des batailles, où sur un plan de guerre, ça semble bien aller. Mais la fin du verset 1 nous dit que David est resté à Jérusalem. Comment ça se fait que c'est l'année où les rois se mettent en guerre, ils s'en vont en bataille, mais lui, il a décidé de rester à Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'un homme comme David est tombé dans un péché de la sorte? On ne veut pas faire de distinction entre les péchés. Un péché, c'est un péché. Puis quel que soit le péché, ça mérite comme conséquence la mort éternelle. Heureusement que Jésus-Christ nous donne la vie, quand on place notre foi en lui, par la repentance, on peut avoir cette relation avec lui. Mais David, il s'est laissé avoir. Le péché est un peu comme une plante grimpante. Le Hébreu 12:1 nous dit... Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché nous enveloppe tellement facilement. Pourquoi est-ce que David est resté là? Une première question, tantôt je disais qu'on peut regarder l'exemple de David un peu en prévention pour ne pas s'égarer ou en exemple pour dire « je peux revenir ». Une première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis à la place où je dois être? Est-ce que je suis à la place où je dois être? Jacques, il dit, est-ce que tu as un frère qui s'est égaré loin de la vérité? Notre place, c'est dans la vérité, dans la fidélité. C'est là que Dieu veut que je sois. Dans le cas de David, c'est pas si évident que ça à trancher de dire, David est resté à Jérusalem, puis c'était un péché écrit grandement dans le ciel qu'il ne devait pas faire. C'est pas si évident que ça de dire ça. Mais il semble y avoir une incohérence entre ce que le roi devait faire et ce qu'il a fait, puis qu'il est resté à Jérusalem. À votre avis, là, si tout Israël est en guerre, OK? Jérusalem, les hommes de Jérusalem sont partis à la guerre et sont tous à l'extérieur. Qui reste dans la ville? les femmes et les enfants. Il n'y a plus beaucoup de maris qui sont là pour prendre soin de leurs femmes. Et David, lui, il a décidé de rester dans ce contexte-là à Jérusalem. Puis c'était pas sa place. Pourquoi est-ce qu'il est resté? C'était-tu rendu facile pour lui, la victoire? Il était-tu fatigué? Il avait-tu une bonne raison? C'était pas sa place. Il y a certains endroits, sans donner des exemples, certains endroits que c'est la place pour un enfant de Dieu d'être. Il y a certains endroits que c'est pas la place pour un enfant de Dieu d'être. Et comme je disais tantôt, est-ce que le péché est écrit gros comme ça dans le ciel, aussi évident? Non, mais en même temps, on devrait être sensible à ce que Dieu est en train de nous diriger pour savoir, est-ce que c'est la place que Dieu veut que je sois? Ou une deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis aux bons endroits? On fait des dimanches soirs passés, on avait vu Satan et les anges. Hein? Comment est-ce que Satan va opérer son royaume? Et puis on disait, c'est intéressant de voir comment est-ce que notre société, bien qu'elle ne croit pas en Dieu ni en Satan, comment est-ce qu'il y a tant d'expressions de ça qui utilisent Satan ou le diable? Connaissez-vous l'expression « il ne faut pas tenter le diable » Mais David, il connaissait pas cette expression-là. Et il a joué avec le feu. Et il a joué avec la tentation. Qu'est-ce que je fais avec la tentation? La tentation, c'est pas un péché. Est-ce que je peux être tenté de quitter le chemin de la vérité pendant un instant? Oui, je peux être tenté. Puis c'est pas péché encore à ce moment-là. Mais à partir du moment où je laisse entrer dans mon cœur ce désir-là de dire, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour quitter ce chemin-là, puis pour satisfaire ma tentation, ça devient de la convoitise et ça devient du péché. Regardez le verset 2. Un soir, David, il se lève de son lit, puis il s'en va se promener où? Sur le toit de sa maison, la maison royale. On imagine que la maison royale devait surplomber toutes les autres maisons et que le hasard de tomber sur une femme qui est en train de se baigner était quand même grand, qu'il pouvait, pas un grand hasard, mais plutôt qu'il y avait de grandes possibilités. Et c'est ce qui est arrivé. David n'a pas fait attention où il était, à ce qu'il devait faire, où il se promenait. Comment est-ce que je traite la tentation dans ma vie quand elle vient? Comment est-ce que je la traite? Une question que je peux me poser. Est-ce que je recherche les bonnes choses? Regardez ce que David a fait. David, il a commencé à être intrigué. Il a vu que cette femme-là, elle était belle de figure, et puis elle est en train de se baigner. Et là, verset 3, il fait demander, c'est qui cette femme-là? J'aimerais ça avoir plus d'informations à son sujet. Des fois, les tentations que l'on a, je recule un petit peu. La curiosité n'est pas une mauvaise chose. Hein? On peut être curieux de Dieu, on peut être curieux de sa parole, on peut avoir soif de connaître les choses de notre monde, par exemple. Mais quand ça concerne le péché, il n'y a pas de curiosité à alimenter là. Il n'y a pas de curiosité à entretenir ou d'intrigue à satisfaire. C'est une fois un rabbin, c'est une joke que j'ai conté il y a plusieurs années, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, j'espère que non. C'est un rabbin, à un moment donné, qui s'en va au marché avec son âne. Et puis là, il arrive au marché, il attache son âne, il s'en va faire ses emplettes, il revient, plus d'âne. Et là, le rabbin, il se dérume, tu sais, puis il prend sa voix la plus forte, puis il dit, « Si ce soir, quand je vais revenir, mon âne n'est pas là où je l'ai laissé la dernière fois, je vais faire exactement ce que mon grand-père a fait quand on lui a volé son âne. » Et puis là, il repart. Il s'assure que tout le monde a entendu. Là, il revient le soir vers 5 heures, puis son âne, il est là. Il est attaché. Fait que là, il prend son âne, puis il commence à repartir vers chez lui. Puis là, il y a un petit gamin qui s'en va, qui court après. Puis il dit, « Rabbi, Rabbi, c'est quoi que ton grand-père a fait? C'est quoi que tu aurais fait si ton âne n'avait pas été là? » Voulez-vous savoir la suite? Vous êtes curieux, hein, là? C'est quoi qu'il aurait fait? C'est ça, la curiosité. Hein, on est... je veux savoir la suite. C'est quoi la suite? Le péché, des fois, c'est la même chose. La tentation, c'est la même chose. C'est quoi la suite? Je veux savoir. Je suis intrigué. Attends un petit peu, là. Je vais faire des recherches, puis je vais voir c'est qui cette femme-là. On va continuer. Hein? Non, je sais que si je vous donne pas le punch, vous me suivrez plus, là. Fait qu'il demande, tu t'aurais fait quoi si ton âne n'avait pas été là? Mais il dit, j'aurais fait exactement comme mon grand-père, puis je serais rentré à pied. C'était simplement ça. Mais la dérape, prendre le champ, être dérouté, ça commence toujours dans nos pensées. Ça commence toujours dans nos pensées. David, là, quand il a pris le champ, il a pas commencé du point où ce qui était, où tout allait bien, puis il a fini 1 kilomètre plus loin dans le champ. Il a commencé par sortir tranquillement pour finir bien loin. Ça commence toujours dans nos pensées, avec la tentation, les endroits où peut-être on ne devrait pas nécessairement être, la tentation qu'on alimente, qu'on ne devrait peut-être pas nécessairement alimenter, l'intrigue ou la curiosité qu'on s'informe et qu'on alimente puis qu'on ne devrait peut-être pas nécessairement faire, puis mettre un frein à ça. Est-ce que je m'attache aux bonnes choses? Colossiens 3 me dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, mais cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Recherchez ce qui est en haut, puis s'y attachez. C'est ça que Dieu veut que je fasse. Mais David avait fait le contraire. Il avait recherché sa curiosité, satisfaire son intrigue avec les choses d'en bas, satisfaire sa tentation, satisfaire sa curiosité. Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsémané, puis qu'il allait prier, puis qu'il revenait voir ses disciples, qui étaient constamment en train de dormir sur leur souper, il leur disait, « Veillez et priez. » Oui, votre esprit est bien disposé, mais votre chair est faible. Veillez et priez. C'est ça que Dieu veut que je fasse avec la tentation pour prévenir la dérape. David a appris que cette femme-là est devenue enceinte. Et puis, il a fait ce que naturellement, chacun d'entre nous, on veut faire avec le péché. Ou peut-être avec les conséquences. On voudrait l'enlever. On voudrait étouffer. On voudrait éliminer le péché. David s'est dit, qu'est-ce que je fais? C'est sûr que ça va venir aux yeux de tout le monde. C'est sûr que ça va être connu de tous. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais faire venir son mari. Il fait venir Uri. Et puis là, il dit, « Uri, je te donne des vacances. Je te donne un cadeau, puis va voir ta femme, puis profite-en. » Uri, il s'en va vers sa maison, puis il couche au pied de sa porte. Il n'est même pas rentré chez lui pour aller voir sa femme, puis profiter de son lit avec son oreiller. Il a couché dehors sur le pas de sa porte. Puis David, il envoie des serviteurs, « Qu'est-ce que tu fais là? » Et Uri lui répond, l'arche de l'Alliance est sur le champ de bataille. Les hommes qui sont là-bas, ils couchent dans des tentes. Est-ce que moi, je vais réellement manquer de solidarité envers ceux qui sont là-bas, puis aller avec ma femme, puis dans mon lit? Non. Et par solidarité, cet homme-là, il est resté sur le pas de sa porte. Ça marche pas. David, il s'essaie une deuxième chance. Il l'invite le lendemain à souper. Il va l'enivrer, puis il dit, vas-y. Puis il couche encore sur le pas de sa porte. Fait que David, il fait écrire une lettre qu'il envoie à Joab, puis qu'il dit, « Envoyez-le au phare du combat, puis quand que le combat commence, éloignez-vous de lui. » Plie ça, donne ça à Uri. Uri, il sait pas c'est quoi. Ça va donner ça à Joab, puis il est mort. Il a été tué au combat, Uri. David a manigancé pour éliminer son péché, pour éliminer les conséquences de son péché. Puis là, il s'est dit, « Ben, je vais pouvoir prendre Bathsheba, je vais me marier, puis... » Ni vu ni connu. On agit comme ça des fois avec Dieu. Connaissez-vous l'expression « le temps arrange les choses » Avec le péché, c'est pas vrai. Le temps n'arrange pas les choses avec le péché. Quand même vous le laisseriez le temps que vous voulez, ça n'arrangera pas les choses. Ce que David avait oublié, c'est qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Je ne peux rien cacher à Dieu. Autant ce qui est dans mon cœur, dans ma tête, que dans mes actions cachées. David avait oublié qu'on ne peut juste pas oublier le péché. David avait oublié que Dieu était près de lui et qu'il connaissait les pensées de son cœur. Je vais faire une citation. J'ai utilisé cet exemple-là, comme je disais tantôt, pour prévenir si présentement je ne suis pas dans cette voie où j'ai dérapé. Je peux prévenir de demeurer dans la vérité en me posant ces questions-là. Mais David, il s'est rendu loin. Est-ce que David, si on lui avait posé la question avant que ça arrive, « David, tu vas tuer un homme pour marier une femme que tu as mis enceinte en adultère? » Ben jamais de la vie, voyons donc! Jamais j'irai si loin que ça. Mais comme je disais, le chemin qu'on prend, on ne se rend pas compte jusqu'où il peut nous mener. On ne se rend pas compte comment est-ce que David, cette soirée-là, a changé le cours de son existence. Dans le psaume 32, David, il dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Et là, David, il dit « Tant que je me suis tu, tant que j'ai gardé le silence, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, parce que nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Tantôt, je parlais de la réalité du péché. Ça l'est, la réalité du péché. Ça a paru bon et intéressant pour David pendant un temps d'aller vers Bathsheba qui était belle de figure. Mais c'est devenu rapidement amer. C'est devenu rapidement un mal de vivre. Est-ce que David pouvait dire qu'il vivait? Il y avait beaucoup plus un goût de mort dans la bouche. Un goût d'amertume. Mais David y poursuit en disant, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. » Puis j'ai dit, « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Je vais ouvrir ma bouche. Je vais le dire. » Et regardez ce que Dieu a fait. « Tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi toute personne pieuse te prie au temps convenable. Et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Il est possible d'éliminer le péché. » Pas comme David l'a fait. David disait, tu m'entoures par derrière, par devant. Dieu, il voit tout. Mais il dit aussi, tu mets ta main sur moi. Dieu veut une relation avec toi. Dieu veut que tu sois fidèle. Dieu veut que tu marches avec lui. Revenez avec moi dans Jacques, on va terminer. Vous avez l'impression qu'on n'a pas... peut-être pas commenter beaucoup Jacques, mais je pense que l'exemple de David va expliquer beaucoup de ce qui s'en vient, de ce que Jacques a dit. David a confessé son péché et dans le psaume 32, il dit qu'il a été pardonné. Il est possible de revenir aussi loin que tu es allé. Et je ne suis pas en train de dire que là, je peux dire la même parole que Paul. Est-ce que parce qu'on peut revenir, je vais aller aussi loin que je veux? C'est pas ça. Mais aussi loin que je suis peut-être présentement, Dieu veut me restaurer. Dieu veut que je réintègre le chemin de la vérité, le chemin de la fidélité. Considérant la réalité du péché, considérant l'exemple de David, comment est-ce que c'est facile de déraper, mais comment est-ce que Dieu peut le restaurer aussi, on comprend pourquoi Jacques termine sa conclusion de son épître avec cette recommandation-là si importante à l'égard du péché. Puis on peut considérer maintenant comment revenir. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Il est possible pour un enfant de Dieu de quitter le chemin. Il est possible aussi de revenir. Et Dieu nous lance un appel à secourir, à intervenir. Dieu nous lance un appel ce matin à nous, si on est dans un chemin encore en fidélité avec Dieu. Dieu nous dit, tu peux aller secourir. Va aider les gens qui ont besoin. Et à l'autre partie, on pourrait dire, laisse-toi aider pour revenir. Vous vous posez sûrement la question, ça veut dire quoi? Sauver une âme de la mort. Si c'est égaré et qu'il revient, il sauvera une âme de la mort. Dieu a lancé un appel à secourir. On pourrait appeler cette démarche-là, on n'aime pas le mot, mais la discipline. La discipline, souvent, on pense à la fin la discipline à l'excommunion. Et que là, il y a une excommunion. Mais j'aimerais ramener un sens moins fataliste, si je pourrais dire, où c'est l'intervention de croyants envers d'autres croyants qui ont abandonné pendant un temps le chemin. Jésus nous disait, si ton frère a péché, va et reprends-le. Ça fait partie du processus de discipline. Ça fait partie de ce que Dieu nous demande. Ce soir, c'est ce que je vous disais tantôt, ce soir, on prendra le temps de regarder plus les questions relatives en ce qui concerne la discipline. C'est qui doit faire ça? Bougez pas, j'ai écrit quelques questions, puis on va voir ça ce soir, parce que là, on n'a pas le temps. C'est quoi la discipline? C'est quoi les motifs? C'est fait par qui? Pour qui? Comment c'est fait? Avec quelle attitude? C'est quoi le but? Puis jusqu'où est-ce qu'on a le contrôle dans la discipline? C'est plein de questions. Puis après, une fois qu'une personne s'est rendue au bout d'un processus, qu'est-ce qui se passe après? C'est des questions qu'on va voir ce soir. Mais il y a une motivation à revenir et Jacques, il dit que quand on ramène quelqu'un, c'est sauver une âme de la mort. Connaissez-vous l'expression surtout utilisée par les plus jeunes? Il va me tuer. Hein? Je ne peux pas dire ça à mes parents, ils vont me tuer. Je ne peux pas dire à mon prof que j'ai pas fait mon devoir, il va me tuer. Hein? Des fois, là, on pense de même avec Dieu. Je ne peux pas revenir, il va me tuer. Dieu est en train de nous dire exactement le contraire. Tu es en train de mourir là où ce que tu es. Reviens si tu veux vivre. Reviens si tu veux goûter la vie. L'Éternel est mon berger, je manquerai de rien, il me conduit dans des verts pâturages. Crois-tu que l'Éternel est ton berger? Crois-tu que l'Éternel veut ton bien? Crois-tu que Jésus est le bon berger qui donne la vie en abondance? Mais si tu crois ça, reviens. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui va donner ce plaisir de la vie, contrairement au péché qui conduit à la mort. Rapidement, je prends 2 minutes pour expliquer le sens que je crois qu'on peut comprendre de sauver une âme de la mort. Si j'ai abandonné la vérité, est-ce que Dieu va me rejeter pour l'éternité au point où je ne pourrai plus revenir à lui, puis que finalement je vais avoir, on va dire l'expression, perdu mon salut? On parle de mort éternelle dans les Écritures. La mort éternelle, c'est l'état dans lequel on est au moment où on ne s'est pas repenti, puis on n'a pas placé notre foi en Dieu. Puis au moment que je m'approche devant Dieu, puis que je lui dis, Dieu, je suis un pécheur. Je suis séparé de ta gloire pour l'éternité. Puis je te demande pardon, puis je me repens de mes péchés. Dieu me pardonne, et puis il me donne la vie quoi? La vie éternelle. Il n'a pas choisi par hasard cette expression-là. Là. La vie éternelle. Alors, je passe de cette mort qui me séparait de Dieu pour l'éternité à une vie où je suis en relation avec Dieu pour l'éternité. Je vais juste vous donner la référence. Vous pourriez lire, je pourrais vous en donner plein. Vous pourriez lire 1 Pierre 1, 3 à 5. Dieu nous a donné un héritage qui ne peut pas se flétrir, qu'on ne peut pas perdre, qui ne peut pas se corrompre. Alors, si je suis dans une position où j'ai abandonné Dieu puis je me suis éloigné loin du chemin de la vérité, c'est possible de revenir à la fidélité. Est-ce que Jacques parle de la mort physique? Mais le péché mène, oui, à la mort physique. Oui, la mort physique est un des effets du péché. Est-ce qu'un croyant qui peut tomber dans l'excès et dans la pratique d'un péché peut être conduit vers une mort prématurée physiquement? Je dirais que oui, c'est possible. Est-ce que c'est ça le premier sens que Jacques veut dire? Je suis pas nécessairement convaincu. Mais je crois que oui, la pratique du péché, quel que soit le péché, là, sans en nommer, qu'on tombe dans un déséquilibre, dans un désordre, dans une débauche quelconque, un péché mené à l'excès va conduire dans une mort prématurée, souvent, une mort physique. Mais il y a une mort qui ressemble beaucoup plus à une relation brisée, comme ce qu'on a lu tantôt avec David au psaume 32. Est-ce que David pouvait dire qu'il était épanoui dans sa vie au moment où il s'était tu, au moment où il ne parlait pas? Mes os ne sont que sécheresse. Ta main s'appesantit sur moi. Mes jours ne sont que pénibles. C'est plate, c'est difficile, je souffre. David était dans une relation dans sa relation, pas dans une relation judiciaire, je peux dire, où est-ce qu'il a perdu quoi que ce soit du salut que Dieu pouvait lui accorder, mais il a perdu une relation avec son Père qui lui donnait un goût de mort. Je crois que c'est beaucoup plus ce sens-là que quand on s'éloigne de Dieu puis qu'on demeure dans ce chemin-là, il y a cette mort d'une séparation que j'ai avec Dieu qui est l'expérience, c'est moi qui l'ai appelé comme ça, là, l'expérience funeste du péché. L'expérience funeste du péché. Si je me mets à pratiquer le péché, ça va coûter la mort dans ma vie. Ça va goûter la mort, ça va être difficile. Proverbe 13, je vais juste vous le citer. Proverbe 23, 13 et 14, c'est pour faire un parallèle. Ne refuse pas de corriger l'enfant. Et c'était traduction un peu chouinard, OK? Si tu lui donnes une fessée, il ne mourra pas. Certes, c'est sûr que c'est plate de donner une fessée, mais tu arraches son âme au séjour des morts. Est-ce que si je donne une punition à mon enfant, j'arrache son âme au séjour des morts, c'est-à-dire que je lui donne le salut éternel? C'est pas ça. Mais il va apprendre, par exemple, comment vivre la vie pour que sa vie soit épanouie et puis qu'il puisse bien se comporter en société. Alors, c'est l'exemple que David nous a laissé, à mon avis, au psaume 32. Une vie qui retrouve son sens, la joie du salut, une vie spirituelle abondante, est-ce que c'est une motivation suffisante pour dire « je veux revenir dans la vérité » Oui, c'en est une. Et Jacques, il termine en disant « il couvrira une multitude de péchés ». Ce qui est difficile avec le péché, ou ce qui ajoute à la difficulté du péché, c'est qu'il ne se consomme pas à l'unité. C'est que quand tu en prends un, il vient avec deux, puis trois, puis quatre. Puis le péché engendre le péché. Et Dieu me dit, aussi loin que tu t'es rendu, confesse ton péché. Oui, on peut l'éliminer, ton péché, mais confesse-le à Dieu. Et Dieu permet de me restaurer rapidement dans la voie que je me suis égaré, de laquelle je me suis égaré. Si je reviens, Dieu me promet la restauration. Est-ce que ce matin, tu es assis ici, puis tu te dis, je suis trop loin, je ne peux pas revenir? Dieu te dit que tu peux revenir. Dieu te dit que tu peux confesser ton péché. Dieu veut que tu sois fidèle, Dieu veut marcher avec toi. Puis oui, tu peux revenir. Est-ce que tu crois Dieu? Tu pourrais dire, oui, mais le péché, j'en ai tellement eu. Je suis rendu tellement loin. Dieu dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Si tu dis, j'en ai tellement fait, mais la grâce va surabonder. Mais pour ça, tu dois le confesser. Oui, tu peux revenir ce matin. Oui, tu peux revenir. Mais crois Dieu. Néglige pas ce que Dieu te dit. La grâce a surabondé. C'est possible de l'éliminer, le péché. Confesse-le à Dieu. Dis-le à Dieu. Demande-lui pardon. Dieu, il dit, si je confesse mon péché, il va être fidèle et juste pour me pardonner. Dieu va te pardonner. Et si tu dis, maintenant, je veux revenir, puis je confesse ce péché-là, je veux marcher fidèlement avec Dieu, mais une fois que tu l'as confessé, ton péché, puis tu as demandé pardon, mais lève la tête, puis marche avec Dieu. Marche dans la fidélité, marche avec lui, dans la vérité, ce chemin-là que t'avais abandonné pendant un temps. L'Éternel est mon berger, que David disait, il restaure mon âme. Est-ce que tu vas voir l'âme restaurée? C'est possible. Mais il faut revenir à lui. Il ne va pas te tuer. Au contraire, il veut te donner la vie puis en abondance. Et Jacques lance cet appel-là à chacun d'entre nous, que si j'ai un frère et une sœur, c'est de ma responsabilité. Parce que j'aime la vérité, parce que j'aime mon frère ou ma sœur, que je vais aller le chercher. Seigneur, on vient devant toi pour te louer pour ta parole qui est vivante. Seigneur, on veut te dire merci pour ce que tu nous dis. Quand on parle de péché, de ses conséquences, c'est souvent lourd et souvent difficile à entendre. Dieu, ce qu'on veut retenir ce matin, c'est que tu veux qu'on vienne à toi. Tu veux qu'on soit fidèle. Si moi j'étais infidèle, toi t'es demeuré fidèle. Tu m'attends là où je t'ai abandonné, là où je t'ai laissé. Si je tombe, tu ne me laisses pas terrasser, tu me tends la main pour me relever. Ce matin, Dieu, je veux saisir ta main. Je crois que c'est toi qui donnes la vie. Je crois que tu veux me donner la vie en abondance parce que c'est toi le bon berger. Ce matin, Dieu, je saisis ta main. Relève-moi. Ramène-moi là où je t'ai abandonné pour que je puisse marcher encore à nouveau avec toi. Redonne-moi la joie de mon salut, que je puisse lever la tête et puis recommencer cette marche-là. Dieu, en tant que croyant, aussi en tant que frère et sœur, tu nous demandes de venir au secours, pas avec une attitude qui fait mal, qui est dure. Toi-même, Dieu, tu nous tends la main. Tu n'es pas dur quand on pêche, tu n'es pas dur quand on veut s'apprêter à se relever. Et nous aussi, on veut s'engager dans cette attitude de douceur, mais de secours aussi envers nos proches qui t'ont laissé. C'est dans le nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen.